Invité par l'association mystérieuse, l'illusionniste, mentaliste, pickpocket, Fred Razon débarque sur l'île Dieu samedi 9 novembre à 21h30 au casino avec son spectacle « Ça va voler bien haut ». Bonjour Fred.
Bonjour Laurent, comment ça va?
Ça va et toi, en pleine forme?
Mais super, merci.
Ce spectacle, c'est de la magie, de l'illusionnisme ou du mentaliste ou bien du pickpocketisme?
Eh ben voilà. Tu as résumé le spectacle, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout où je m'amuse à mélanger l'illusion, la magie, le pickpocketisme et le mentalisme. Et avec tout ça, je raconte un peu ce qu'est le détournement d'attention, comment devenir un grand voleur. Évidemment, c'est de la blague, hein. C'est pas vraiment pour faire une grande carrière de voleur. Mais je raconte un petit peu quelques secrets du détournement d'attention, ou tout du moins comment ça peut marcher, et tout ça avec des blagounettes, avec de la bonne humeur, et puis un bon public pour s'éclater.
Combien de temps de travail pour pratiquer ces différentes disciplines?
Je fais mon métier en tant que professionnel depuis 25 ans. J'ai commencé à m'y intéresser quand j'avais 7 ans. Et donc ça fait longtemps maintenant, ça fait longtemps que je réalise cette passion et que je m'amuse à faire des spectacles avec des publics de folie qui viennent pour rire avec moi. Et je me suis toujours dit, un bon spectacle, c'est un spectacle où je vais bien m'amuser, en fait. Donc, en fait, avant toutes ces techniques de mentalisme, de pickpocketisme, c'est d'abord, je cherche à m'éclater sur scène, parce que je sais que on s'amuse toujours quand l'artiste est sur scène s'amuse. On s'amuse pas devant quelqu'un qui travaille.
Tu es autodidacte?
Je suis autodidacte, ou un peu comme tous les magiciens cherchent à rendre unique leur performance, leur tour de magie ou leur démonstration. J'essaye de raconter quelque chose ou de faire passer quelque chose quand je fais un tour de magie. Je fais jamais un tour de magie juste pour faire le tour de magie, à moins qu'il y ait une excuse pour ça, quoi.
Détourner l'attention du public, est-ce que c'est plus simple sur le jeune public, sur les adultes ou sur les personnes âgées, ou il n'y a pas de règle?
Alors, il n'y a pas de règle, mais c'est différent pour les enfants ou les adultes. On ne va pas s'y prendre de la même façon. Les enfants ont plus besoin d'avoir une histoire de fond. Ils vont peut-être pas, ça dépend ce qu'on appelle comme enfant, mais en dessous de 8 ans, ils vont peut-être pas comprendre le second degré, ou le concept de la magie. Comme je disais, une fois, il y a une dame qui vient me voir avec son bébé, il devait avoir 3-4 ans, et elle me demandait de lui faire des tours de magie. Alors je lui ai expliqué qu'il fallait d'abord qu'il apprenne la vie avant de comprendre ce qu'est la magie. Voilà, donc il peut pas reconnaître un tour de magie s'il connaît pas les concepts fondamentaux de la vie, quoi.
Donc un spectacle ouvert au public à partir de 8 ans, c'est ce que tu nous dis, Fred.
C'est ça. En dessous 8-9 ans, faut quand même aller voir des spectacles qui sont faits pour les enfants. Moi, c'est un spectacle familial, donc c'est pour les parents et les enfants, c'est pour les deux. Donc il n'y a pas de petite fée, il n'y a pas de petit lutin ou de petite baguette magique. Ça va plus être, entre guillemets, de la déconnade avec mon public, mais je vous rassure, les enfants kiffent aussi, hein.
Comment tu choisis les spectateurs, spectatrices qui montent sur scène avec toi?
C'est plein de critères que j'ai appris à reconnaître au long de ma carrière. C'est des critères, psychologiques, et puis des critères techniques aussi. Je vais reconnaître des gens qui... En fait, pour un tour de magie, pour une performance sur scène, on a besoin d'un spectateur. Selon le tour qu'on va faire, selon le besoin qu'on va avoir du spectateur, on va choisir un spectateur plus ou moins extraverti ou introverti. Par exemple, si j'ai besoin d'un spectateur avec qui on va se fendre la gueule sur scène, je vais prendre un spectateur que j'aurais repéré avant, avec des petites techniques habituelles, comme ça, juste en regardant. Je vais voir si le mec, ça peut être très bien être la dame aussi, va être apte à recevoir ce que je vais lui envoyer sur scène. Apte à le renvoyer plutôt. si j'ai besoin d'un spectateur qui va avoir du répondant, bah j'aurais repéré dans la salle quelqu'un qui sera extraverti, qui va peut-être qui est en train de parler avec d'autres personnes ou qui est en train de rigoler, qui a déjà un visage
enjoué,
visage sympathique.
Est-ce que tu as déjà dérobé des objets insolites dans les poches du public ?
Ça m'est arrivé.
Comme quoi, par exemple ?
Une grosse liasse de billets.
Qu'est-ce que ça fait, une grosse liasse de billets ?
Ah, je sais pas, genre la liasse qui a eu un peu de mal à sortir de la poche, déjà.
Ah oui, pas mal, quand même.
Ou un revolver.
Un revolver, ça a dû te faire peur, non ?
Ouais, je l'ai fait plus fort. Non, ça va. Plusieurs fois, ça, en fait, je l'avais fait avec un garde du corps russe pour un nouvel an russe, pour une soirée privée. J'avais pris le garde du corps sur scène et puis je l'avais dépouillé, on avait bien rigolé. Et puis je lui avais pris son flingue.
Est-ce que le public français réagit de la même façon que le public étranger à ton spectacle ?
Non, le public français est plus compliqué à séduire qu'un public étranger.
Il rentre moins dans le jeu, c'est ce que tu nous dis ?
C'est pas qu'il rentre moins dans le jeu, c'est que par exemple, un public américain, il vient pour s'amuser. Donc, il paye sa place, il va s'amuser. C'est ce qu'il dit. C'est normal qu'en payant sa place, il passe un bon moment. Un Français, il va payer sa place et ensuite il va juger de ce qu'il voit dans les premiers temps. Il va juger et ensuite il va dire c'est drôle, c'est pas drôle. Je vais pas m'amuser. Le Français va d'abord réfléchir à sa future situation.
On t'a retrouvé dans de nombreuses émissions télé, notamment Diversion ou Vendredi, tout est permis. Est-ce que après ces émissions ou la finale de La France a un incroyable talent, les spectateurs et spectatrices sont venus plus en nombre dans tes spectacles et durant tes spectacles ?
Alors, oui, évidemment. Même si à la base, en vrai, à chaque fois les émissions, je les fais pas pour faire de la télé. C'est plus qu'à chaque fois c'est des opportunités. Entre guillemets, quand j'étais petit, être assis devant la télé et en regardant TF1 et me dire un jour je passerai à TF1. Bon, c'est super cool de se dire que le petit Fred Razon pensait à ça et puis qu'aujourd'hui ça arrive. Mais quand je disais que c'était des opportunités, à chaque fois j'avais fait par exemple avant Incroyable Talent, j'avais fait une émission avec mon pote Éric Antoine qui s'appelait Les Délires Magiques d'Éric Antoine où je faisais des passages dans certaines émissions. Quand j'ai fait Diversion, il y avait mon frère Auguste, il y avait Caroline, il y avait Senzo, il y avait que des amis, donc c'est toujours un bon moment à passer, c'est une expérience à passer avec des potes, des amis, et pareil pour VTEP. Sur VTEP, après, il y a toutes les équipes techniques qu'on a hâte de revoir et qu'on voit que à ces moments-là, qui sont super sympas. On a les potes magiciens et puis c'est toujours des expériences à partager qui sont sympas et de les partager avec des potes, c'est encore mieux, quoi.
Tu as plusieurs cordes, autres cordes à ton arc. Tu as travaillé également pour le cinéma, comme par magie le film de Christophe Baratier.
Exactement, Christophe Baratier qui a réalisé Les Choristes, entre autres, et plein d'autres films. Et il m'avait appelé, en vrai, il avait appelé Gus en premier, mais Gus l'a télétransporté vers moi parce qu'il sait que j'aime bien chercher des solutions à des trucages. Je suis un peu bricoleur quand même, j'aime bien bricoler, donc j'aime bien aussi j'ai bien aimé cette expérience avec Kev Adams sur le film de Christophe Baratier parce que je le transformais en magicien et du coup comme il est magicien, c'est un métier comme acteur, hein,
ça ne s'invente pas, ouais.
Il fallait que je le transforme en magicien avec des petites astuces. Je me suis vraiment bien éclaté sur cette nouvelle expérience au cinéma où j'avais déjà fait quelques coachings d'acteurs au cinéma, mais j'avais pas vraiment une vraie place au niveau artistique magique dedans. C'est-à-dire que j'ai coaché des artistes, mais ça, s'ils n'avaient pas bossé, ça aurait été la même chose en vrai. Alors qu'avec Kev, on a vraiment travaillé pour rendre le truc crédible. C'est-à-dire que Christophe voulait vraiment qu'en voyant le film, on voit des tours de magie, on voit que ça pourrait arriver, ça pourrait se passer, tu vois. Et du coup, avec Kev, on a vraiment bien accroché. On a créé des belles scènes avec Christophe et toute l'équipe du film qui sont vraiment tous des géniaux. C'est vraiment ouf de travailler qu'avec des top one dans leur métier. Et j'avais vraiment ma place. C'est ça qui était cool dans la création des scènes de magie dans le film. C'est-à-dire que c'est moi qui décidais si la scène était bonne ou pas. Et ça, c'est vraiment appréciable parce que, en tant que magicien, on a un œil que les moldus n'ont pas. Et du coup, il y a des choses que nous on voit et que le commun des mortels ne voit pas. Comme par exemple dans l'émission Diversion où il y avait des petits trucs, on avait un droit de regard sur les tours qu'on avait fait dans l'émission avec Arthur sur TF1. Et il y a des choses que nous on avait vues au montage que l'équipe de Réal, qui sont des grands professionnels, n'avait pas vu, parce que c'est notre œil, quoi.
L'œil des magiciens et juristes.
Voilà, l'œil du magicien, l'œil qui voit les choses que d'autres ne peuvent pas voir.
Et on te retrouvera sur l'île Dieu, Frère Drazon. Ce sera le samedi 9 novembre à 21h30 au casino, invité par l'association Mystérieuse. Merci beaucoup.
Exactement, et j'ai hâte d'y être.
Salut.